Lundi 30 octobre, presque la fin du mois et à la veille de l'Halloween avec des vents qui font quand même assez peur aujourd'hui. Mon nom est Claude Blas, bienvenue au Voix de service magazine. Et on est entouré naturellement à l'entour de la table de précieux collaborateurs, entre autres Mme Franceline Nieuviard. Bon matin.
Bonjour.
Alors, de quoi allez-vous nous parler ce matin?
Oui, moi j'ai deux articles. Le premier est tiré de l'itinéraire écrit par Yannick Marcil, qui s'intitule « La marchandisation de l'identité ». Et il évoque un paradoxe entre cette époque où on valorise l'hyper-individualité et finalement une uniformisation dans beaucoup de domaines.
Parfait.
Et mon deuxième article portera sur un projet d'une municipalité près de Matane. Ça s'appelle Opération Revitalisation. C'est dans le cadre des municipalités amies des aînés.
Bien intéressant. Monsieur Roger Roy?
Oui, bonjour Claude.
Bonjour.
Alors, moi je vous parle du parcours PARK-OUR des handicapés, d'un handicapé en particulier.
Oui.
C'est dans le Reader's Digest. C'est pas facile tous les jours pour lui, comme on va le voir. Et ensuite, dans l'actualité, de la femme biologique. Pas biologique.
Bionique, non?
Bionique. Biologique.
J'ai écrit biologique, c'est bionique.
Ah oui, il me semble.
C'est bon, c'est repris. Et le grand retour de M. Serge Hamelin de la Chine directement,
oui. Oui, oui, oui. Alors, parce... comme j'étais malade, alors moi j'ai pris la quoi donc? J'ai pris la revue Protégez-vous.
Oui.
Et puis, je suis tombé sur les pharmacies. Le prix des médicaments.
Mmh.
Ouais, ouais, ouais. Et il y a des écarts spectaculaires. Saviez-vous ça?
Ben, on
alors, je
ne
savais
tantôt,
pas, moi, qu'on pouvait aller magasiner dans les pharmacies différentes. Hein?
Mmh.
Et après, l'hiver, il y en a qui aiment ça, fuir l'hiver. Et vous souhaitez fuir l'hiver et passer une partie de votre retraite à l'étranger?
Ah, peut-être.
Mmh. Alors, je vais vous donner des suggestions. Et vous allez voir que c'est très facile.
On revient tout de suite.
Ouais.
Alors, premier sujet avec Franceline, la marchandise de l'identité.
La marchandisation de l'identité.
Marchandisation, oui.
En effet, elle s'appelle Rebecca Ariane Givens, mais on la désigne tout simplement par son prénom Ariane. Originaire d'Ottawa et ayant étudié à l'Université McGill, elle vit maintenant à New York, où elle a fait l'essentiel de sa carrière de mannequin. Sa mère est d'origine chinoise et son père est canadien-français. Ce qui donne à son visage une physionomie métissée quasi universelle. Et donc voilà le mot-clé. Très belle femme, on la voit partout, mais sans la remarquer. C'est justement ce qui fait sa force. Son métier, elle l'exerce pour le compte d'agences de banques d'images génériques. Elle figure sur des centaines de photos utilisées par des publicitaires, tantôt mangeant une salade, tout sourire, ailleurs souriant à un collègue dans une réunion, ici buvant un smoothie. Ces photos peuvent être vues partout dans le monde, en Amérique latine, en Scandinavie, en Asie et même à Montréal, notamment sur des panneaux publicitaires de l'Auto-Québec. En 2012, le magazine Glamour affirmait qu'elle était le mannequin le plus surexposé de la planète. Cette histoire illustre presque trop bien la marchandisation du monde. Comme l'écrivait un journaliste à son propos, Ariane a le visage féminin le plus familier du monde et pourtant personne ne la connaît ni ne la reconnaît. À une époque où l'on valorise l'hyper-individualité et la mise en scène de l'image de soi, il est tout de même très paradoxal que ce visage le plus familier du monde soit à ce point anonyme. Il s'agit pourtant du véritable visage, d'une véritable femme, en chair et en os, et non pas d'une construction artificielle produite du travail d'un illustrateur 3D. Son métissage, tout ce qu'il y a de plus naturel, correspondrait ainsi à un idéal publicitaire de beauté neutre et universelle. Or, un idéal n'existe pourtant pas, mais n'est pas vrai ni réel. Cela est pour le moins troublant pour cette jeune femme. Sa beauté pourtant réelle ne correspondrait pas à la vérité qui est faite d'imperfections et de mille diversités. L'uniformisation des marchandises caractérise le capitalisme si on l'oppose au travail artisanal. En effet, la production industrielle nécessite pour être rentable la standardisation des processus de fabrication et en se répandant à l'échelle planétaire, l'homogénéité des marchandises. Les bouteilles de Coca-Cola seront, sauf exception, toutes identiques, qu'elles soient vendues à Tokyo, à Montréal, à Paris ou à Sao Paulo. Le cas du design des automobiles est à cet égard frappant. Alors que dans les premières décennies, ayant suivi leur apparition au début du XXe siècle, elles présentaient des formes et des configurations extrêmement variées. Elles sont aujourd'hui à peu près toutes sur le même design, peu importe la marque et leur pays d'origine. Seuls quelques détails distinguent les marques entre elles. Le choix du visage d'Ariane pour porter des campagnes publicitaires de toute nature n'est donc pas anecdotique. Il correspond à l'idéal de beauté publicitaire qui ne doit surtout pas révéler les imperfections du monde dans lequel réside la vérité du réel. Comme l'écrivait la poète Hélène Dorion dans son livre « Sans bord, sans bout du monde », paru en 1995, elle écrit ceci, « Vient le jour où la beauté borde notre chemin, on se penche sur la vie et aussitôt on se relève, le cœur tremblant plus fort d'une vérité ainsi effleurée. » Le visage d'Ariane, évidemment, est très beau, mais il n'est pas de cette beauté que chante la poète. Il ne nous permet pas d'effleurer la vérité puisqu'il a été choisi pour qu'on ne le remarque pas, remarquablement banal. Ainsi en va-t-il de la marchandisation du monde. Elle efface toute aspérité, elle gomme toutes les identités singulières en proposant un idéal universel et uniforme. Voilà, donc réflexion sur la marchandisation de l'identité, écrit par Yannick Marcil dans le journal L'Itinéraire d'octobre 2017.
Merci beaucoup, Franceline. Alors, après avoir écouté Franceline, on y va avec Roger Roy, oui, avec un article.
Oui, c'est accès très limité. Mm-hmm. Ce sont des accès très limités pour les handicapés. Le texte est signé par Stephen Trumper. C'est dans la sélection de Reader's Digest du mois de novembre. Le parcours PARKOUR est un sport où il faut courir, grimper, sauter, bondir, rouler et accomplir une foule d'autres mouvements physiques qui me sont interdits parce que j'ai le syndrome d'Arnold Chiari, une malformation congénitale de la moelle épinière. Et pourtant, franchir des obstacles urbains et naturels en tout genre est une chose que je fais par nécessité et les bonjours, avec plaisir. Mon parcours du handicapé qui se pratique en fauteuil roulant en est une variation tout aussi inventive quand il s'agit de franchir des obstacles pour la plupart dressés par des personnes valides et acceptés par d'autres personnes valides comme allant de soi. Un jour, en commençant notre routine matinale, ma femme, Judith Wilson, a pour la première fois fait un lien entre le parcours et mon handicap. D'abord, elle m'aide à enfiler mes vêtements, puis elle attache les courroies du lève-personne, l'appareil qui me porte du lit au fauteuil roulant. L'ascenseur me conduit au rez-de-chaussée et je peux me rendre au travail ou ailleurs. Beaucoup de personnes handicapées mettent un point d'honneur à n'être jamais en retard, même si elles doivent pour cela se réveiller beaucoup plus tôt que les autres. Des scènes comme celle-ci se déroulent chaque jour au Canada dans les maisons des personnes handicapées. Jake Miller, membre de l'équipe de préposés au service de soutien personnel qui s'occupe de moi, avait toujours tenu pour acquise sa routine du matin. Avaler un café, s'habiller, se coiffer ne lui prenait que 15 minutes. Puis, a-t-il dit, j'ai découvert qu'il fallait une heure ou deux pour préparer certains clients. Faire appel au service des préposés au service de soutien personnel est un moyen de franchir les obstacles. J'ai besoin d'eux pour me laver les dents et me coiffer, me nourrir et faire ma toilette, aller à la salle de bain et accomplir toutes sortes de tâches. Ils sont mes jambes et mes bras. En principe, je suis le cerveau de l'opération, un rôle central dans la philosophie d'une vie autonome. Je décide moi-même ce dont j'ai besoin et ce que je dois faire chaque jour. Il reste des obstacles que je n'ai pas réussi à surmonter,
mais ils sont mineurs en comparaison de ceux qui empêchent trop de Canadiens handicapés, physiquement, intellectuellement ou autrement, de participer pleinement à la vie sociale. Parmi ces obstacles, il y a la peur, l'ignorance, le manque d'argent, les promesses électorales non tenues et l'absence d'imagination. Dans sa dernière enquête, le gouvernement fédéral a dénombré 2,3 millions de Canadiens entre 15 et 64 ans souffrant de handicap. 2,3 millions. Dans ce groupe, le taux de participation au monde du travail se situe autour d'un navrant 50 % et il est encore plus bas dans le cas de handicap sévère. C'est un incroyable gaspillage de potentiel humain. J'ai eu la chance de trouver un emploi relativement bien rémunéré pour un journaliste et des employeurs souvent sensibles à mes besoins. À la fin des années 80, le rédacteur en chef de Toronto Life a fait installer un des premiers téléphones cellulaires dans ma voiture. Je l'utilisais pour appeler la réceptionniste afin qu'on vienne sortir mon fauteuil roulant du coffre. Depuis, les technologies libératrices, logiciels, équipements, véhicules, ont, en théorie du moins, facilité l'accès des personnes handicapées au monde du travail. Je rédige cette chronique en parlant dans un microphone branché à mon ordinateur. Le logiciel de reconnaissance vocale inscrit comme par magie mes paroles sur l'écran, le plus souvent épelées correctement, ce qui procure un plaisir infini à mon rédacteur en chef intérieur. Heureusement, ce logiciel ne coûte qu'une centaine de dollars. Les autres technologies libératrices sont plus onéreuses, à peu près 30 000 $ pour un ascenseur résidentiel, 1 700 $ pour mon lève-personne, 3 500 $ pour mon fauteuil roulant manuel et 650 $ pour le coussin le plus cher au monde, spécialement conçu pour prévenir les escarres qui, non soignés, peuvent mener à des infections potentiellement mortelles. Un fauteuil roulant motorisé peut coûter jusqu'à 24 000 $, un chiffre qui m'épate étant donné que j'ai payé 300 $ ma première voiture, une Pontiac parisienne 1964 d'occasion. Acheter une fourgonnette adaptée est au-delà de mes moyens, le prix initial, plus de 12 000 $ à 30 000 $ pour la conversion seulement. J'utilise donc ce qu'il reste de mieux dans une ville où l'accès au transport public aménagé est problématique, des taxis adaptés, 45 $ la course. Heureusement, mon principal chauffeur, Moumoud Abdoulé, un homme généreux, compense un peu ce prix élevé en m'apportant régulièrement mon café au lait glacé préféré quand il vient me chercher. Plusieurs provinces et territoires offrent des programmes publics ou caritatifs qui couvrent certains coûts, comme le salaire horaire d'un accompagnateur, entre 15 et 20 $, et j'ai pu en profiter. Néanmoins, il y a toujours un gouffre entre le revenu de beaucoup de personnes handicapées et le coût des produits et services qui pourraient améliorer leur vie. Au cours de ma vie, j'ai découvert que le parcours du handicapé peut se pratiquer dans une foule de lieux, dans les tribunaux, les écoles, les hôpitaux, partout où il y a des obstacles. Mais malgré les progrès obtenus, ce pays ne dispose toujours pas de lois nous protégeant de la discrimination et établissant des normes pour assurer une meilleure accessibilité. À la différence des États-Unis, où on a voté une loi il y a 27 ans, au Canada, on ne fait que commencer à consulter le public pour savoir s'il y aurait lieu d'adopter une loi pour protéger les handicapés. Mais il dit, en réalité, aucune loi ne pourra éliminer tous les obstacles. Le monde du handicap foisonne de problèmes complexes et de besoins spécifiques. Il est parfois submergé par la tyrannie des bonnes intentions. Mais si le projet de loi qui sera finalement présenté reconnaît les droits fondamentaux, c'est-à-dire l'accès à une habitation adaptée, à une éducation dans un environnement favorable, à un emploi et au transport en commun, ainsi qu'une aide financière pour payer les services personnels et appareils, les chances que les Canadiens handicapés ne soient plus exclus de domaines entiers de la vie quotidienne seront grandement améliorées. Donc, c'est un plaidoyer pour qu'on adopte une loi canadienne qui serait, en quelque sorte, pour consacrer les droits des handicapés.
Il y a encore tellement à faire de ce côté. Hein? Il faut lever quand même notre chapeau à ces gens-là qui gardent quand même le moral à travers tout ça. Hein?
C'est que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de besoins spécifiques. Hein? C'est faut essayer de ça.
Tout à fait. À chacun d'eux, c'est ça, deux, c'est exactement. Ça. Bon, on vous revient.
Tout le monde, oui! Du Robax à 7 pour mon mal de dos.
Du Robax à 7 pour mon mal de dos.
Du rapide, tu sais, pour mon rhume de cerveau. Oh!
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. petite granule, une infusion, une injection. Y a rien de mieux, fiston, pour dormir sur le béton.
Ah, du rabitus Saint-Bermorum de cerveau.
Du rabitus Saint-Bermorum de cerveau.
De l'antiflogestine pour mon lumbago. Oh!
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le béton.
De l'antiflogestine pour mon lumbago.
De l'antiflogestine pour mon lumbago.
De ginseng pour ma libido.
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le béton.
Et puis du ginseng pour libido.
Et puis du ginseng pour ma libido.
Puis du Viagra pour me remonter le moineau.
Oh! Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le béton.
Puis
du Viagra pour m'amorter le moineau.
De la nicorette parce que je fume ben trop.
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour dormir.
Parce que je fume ben trop.
De la nicorette parce que je fume ben trop.
Avec tout ça dans le corps.
Avec tout ça dans le corps.
Je mourrai pas de si tôt. Oh!
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le piton.
Okay.
Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le piton.
On vient d'entendre Mes aïeux et la pièce Remède Miracle.
Un beau lien avec le sujet de Serge. Hein?
Écoutez, si jamais vous avez le piton collé, là, que ça, vous n'êtes pas sur le piton, que vous avez besoin d'aller acheter une petite granule,
oui,
une petite pilule, mm-hmm, eh bien, imaginez-vous donc que la revue Protégez-vous s'est renseignée. Oui. Je ne savais pas, moi. Parce que quand on est malade, on se rend à la pharmacie, la plus près, et on achète un médicament. On ne pense pas aller magasiner. On n'est pas en forme pour aller magasiner. Alors qu'on peut aller magasiner nos pilules. Ben oui. Et le prix des médicaments, il y a des écarts spectaculaires. C'est pas moi qui le dis, c'est Catherine Crépeau dans la revue Protégez-vous. Imaginez-vous donc. Si comme 60% des Québécois, vous êtes assurés au privé, ce qui n'est pas le cas, vos médicaments peuvent coûter du simple au double selon la pharmacie où vous les achetez.
Bon.
Ah oui, hein? Alors, vous prenez toujours vos médicaments au même endroit, convaincu que les prix sont les mêmes partout. Détrompez-vous. Notre enquête montre que votre facture annuelle pourrait varier de dizaines, voire de centaines de dollars selon la pharmacie choisie. Nos enquêteurs se sont mis dans la peau d'assurés du régime privé, désirant obtenir le prix de 4 médicaments en version générique et brevetée. L'Effexor, dépression et anxiété, très populaire, soit dit en passant, l'Effexor. Le Lipitor, hypercholestérol. l'hypertérolémie, le norvasque, hypertension et le pantoloque, troubles du système digestif. Ils ont récolté les données par téléphone dans 280 pharmacies qui appartiennent à l'une ou l'autre des principales chaînes. Le diagnostic, pour les assurés du régime privé, le prix des médicaments varie de façon spectaculaire entre les chaînes de pharmacies. On a trouvé la même provision de 30 comprimés de Lipitor à 15,98 par mois chez Brunet. Et à 37,10 dans un Family Prix. Ah! Ah!
Quand même.
Au bout d'une année, la différence s'élève à plus de 250 $ pour l'assuré et son assureur. Cet exemple ne signifie toutefois pas que vous devriez automatiquement faire suivre votre dossier chez Brunet, puisque les prix y varient d'une succursale à l'autre. Ah! Alors, vous êtes tenté de contourner les grandes chaînes en achetant vos médicaments sur le web.
Oh!
Une autre affaire. Un seul des 5 sites qu'on a évalués pratique des prix concurrentiels. Les autres sont souvent plus chers que les pharmacies qui ont pignon sur rue. Au final, la facture que vous partagez avec votre assureur pourrait être nettement moins salée si vous prenez le temps de vérifier le prix global de vos médicaments dans plusieurs chaînes et succursales de votre région avant d'y ouvrir votre dossier. Alors, on dit « Voyez nos conseils » ici qui suivent. Costco offre en moyenne les meilleurs prix et Pharmaprix les pires. Hein, c'est là que je vais, moi.
Ça
se pourrait peut-être que j'aille ailleurs. Le magasin. Je viens de faire d'économie, moi, ce matin. Hein.
Oui.
En plus de mon salaire d'animateur, là, je vais avoir une économie extraordinaire. Le magasin entrepôt n'est toutefois pas un bon choix pour tout le monde, Costco. On parle de Costco. Si Costco figure en tête de palmarès, c'est surtout grâce à une liste de prix dont les pharmaciens de la chaîne ne semblent pas déroger. Ça, pour les ibuprofènes Costco, là, imbattable.
Oui,
c'est un genre Advil, là. Mm-hmm. Pas cher, pas cher. Ainsi, une provision mensuelle de la version générique de l'Effexor, qui se vendait à 26,48 $ dans tous les commerces de cette chaîne qu'on a contactés. En revanche, les pharmacies Proxim facturent de 20,40 $ à 35,45 $ pour le même produit. Alors, ça varie. Hein. La moyenne des prix par comprimé de Proxim est donc plus élevée que celle de Costco. Notez qu'il n'est pas nécessaire d'être membre de ce magasin entrepôt pour y acheter des médicaments. Ah, ça, je ne savions pas. Toutes les pharmacies Pharmaprix qu'on a appelées vendaient les médicaments au même prix, ce qui n'empêche pas cette chaîne de figurer au bas du tableau. La version générique de l'Effexor XR s'y vend 36 $ par mois, soit le tarif le plus élevé trouvé pour ce produit. D'ailleurs, Pharmaprix est la chaîne qui facture le plus cher en moyenne pour les 4 médicaments de l'enquête. Les chaînes Centre Santé et Jean Coutu, qui viennent respectivement au deuxième et troisième rang en termes de bas prix. Du côté de Centre Santé, le prix pour 30 comprimés de l'équivalent générique de l'Effexor XR varie entre 25,10 $ et 31,91 $ selon la succursale visitée. Et chez Jean Coutu, le même médicament coûte entre 27,99 $ et 30 $. C'est à peu près la même chose pour Accès Pharmacie Walmart, qui pratique des prix similaires d'une adresse à l'autre. Family Prix, Proxim et Uniprix sont quant à eux les champions des écarts de prix. Et dans les Uniprix, par exemple, une provision d'un mois de Pantoloque peut varier de 19 $ à 46 $ selon la succursale visitée. Eh bien, ça vaut la peine de visiter, hein? Soit une différence de 324 $ par année. On apprend des choses ce matin, hein? Alors donc, Costco, Centre Santé, Jean Coutu, Accès Pharmaprix, c'est Walmart, Brunet, Uniprix, Proxim, Family Prix et en dernier, Pharmaprix. Bien sûr, ces résultats découlent d'un scénario précis et ne s'appliquent pas nécessairement à votre cas. Tout dépend des médicaments que vous prenez. La meilleure stratégie qui, pour vous, consiste donc à questionner les pharmaciens de votre quartier au sujet de la facture globale pour vos médicaments. Ouvrir un dossier quelques rues plus loin pourrait vous permettre de faire fondre votre facture annuelle. Parce qu'il faut ouvrir des dossiers, hein? Les assurés du régime public d'assurance médicaments paient sensiblement la même chose partout dans la province, car les honoraires des pharmaciens sont fixés par le gouvernement du Québec et sont les mêmes pour tous. Par contre, pour les assurés du régime privé, la facture, comme je le disais tantôt, varie beaucoup d'un endroit à l'autre parce que les pharmaciens établissent eux-mêmes le montant des honoraires qu'ils ajoutent au prix du médicament qui, lui, est le même pour tous les Québécois. Ils peuvent tenir compte, par exemple, des salaires versés à leurs employés et du loyer de leur local, ainsi que des pertes et des coûts de destruction des stocks. Seule limite, le code de déontologie des pharmaciens leur enjoint de ne pas facturer des frais abusifs, et cette liberté relative fait en sorte que leur marge bénéficiaire explose. La marge brute sur les médicaments génériques est en moyenne 7 fois plus élevée que celle sur les médicaments brevetés. Ainsi, selon nos calculs, Costco enregistre des bénéfices de 18 % sur l'Effexor et de 139 % sur sa version générique. Aïe aïe! Et lors de notre enquête en 2011, les bénéfices sur les médicaments d'origine étaient en moyenne seulement 4 fois plus élevés. Alors, trop cher? L'enquête de Protégez-vous montre que les marges sont très élevées, particulièrement dans le cas des médicaments génériques. On a vu à 150 % et à 160 % et à 225 % et même à 290 % dans le cas d'une pharmacie du Bas-Saint-Laurent.
Alors, la conclusion, c'est magasiner vos médicaments.
Eh bien, oui, oui.
Bien important, on vous revient avec nos trois
collaborateurs. Avant d'être malade.
Avant d'être malade. On vous revient après la pause avec nos trois collaborateurs.
Sauve-moi, écoute ça, baby. Je suis pas un sauveur, mais
C'était le Soul de Ben, l'oncle Soul, avec la pièce Soul Man.
Et voilà, merci. Eh bien, après avoir parlé de trois articles assez intéressants quand même, nous allons poursuivre cette émission, deuxième partie avec Franceline.
Alors, oui. Franceline. Alors, moi, je vais vous lire un article de la revue Le Bel Âge d'octobre 2017. Chaque mois, cette revue met en évidence une municipalité dans le cadre du projet MADA, c'est-à-dire Municipalité Amie des Aînés. Et donc, chaque mois, elle met en évidence une municipalité pour un projet original ou innovant. Et donc, dans le mois d'octobre 2017, Linda Priestley parle de ce qui se passe à Grosse Roche, un village proche de Matane. Et ça s'intitule « Opération revitalisation ». Hors de question pour les Rochelois d'être malheureux comme les pierres. Leur village de Grosse Roche, situé non loin de Matane, a prouvé qu'ils pouvaient déplacer des montagnes en mettant sur pied le projet Forum d'action sociale des aînés, financé en grande partie par le programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés. Le but, aider sa population âgée à briser l'isolement. Les villageois de 50 ans et plus ont ainsi pu participer à une visite de vignoble, une sortie au jardin de Métis, des ateliers de forme physique et de nutrition, une métamorphose beauté, des conférences sur l'Alzheimer ou l'histoire de Grosse Roche, et on en passe. L'initiative, récompensée d'un prix du Carrefour d'Action Municipale et Famille, a généré tant de bonheur au sein de la municipalité que les gens en redemandent. Les premiers jalons de cette dynamisation ont été posés en 2015. Devant le vieillissement de sa population, sur environ 380 habitants, 210 ont plus de 50 ans, le village avait adopté la politique municipalité amie des aînés. Le comité de pilotage MADA, constitué de bénévoles, dirigé par la conseillère municipale Pâquerette Coulombe et soutenu par le maire André Morin, avait cogné aux portes pour parler directement aux aînés, connaître leurs besoins et entendre leurs suggestions. En constatant que certains d'entre eux ressentaient fort la solitude et semblaient peu au courant des activités, services et programmes municipaux conçus pour eux, le comité a mis sur pied ce forum, un événement à la fois rassembleur, inspirant et informateur. Notre but était d'encourager les plus isolés à socialiser et à s'impliquer dans la communauté, explique Vanessa Caron, conseillère en développement rural à la MRC de la Matanie. Et la variété a été au menu, grâce au comité organisateur. On voulait que les Rochelois puissent profiter d'activités en tout genre, confirme André Morin, le maire. Sorties, soupers et spectacles, ainsi que formations, ateliers et conférences animées par des experts, notaires, kinésiologues, nutritionnistes, pharmaciens, infirmières, et il y en avait pour tous les goûts. Les gens avaient manifesté leur intérêt principalement pour des sujets touchant la santé, comme le diabète, le cancer, la gestion de leurs médicaments, la forme et la nutrition, ajoute Madame Caron. Les événements sociaux et culturels attisaient également leur curiosité. Bref, les aînés ont été fort occupés. Certains avaient cessé d'être actifs depuis des années, poursuit le maire. Notre objectif était de les aider à réaliser qu'ils pouvaient toujours contribuer à la vie communautaire. Afin que tous puissent y participer, différents moyens ont été mis en place, dont la gratuité de l'accès aux activités et du transport collectif. Le covoiturage et la location de fauteuils roulants pour les sorties de groupe étaient aussi prévus afin de faciliter ces déplacements. Pas étonnant que ces efforts impressionnants aient été couronnés d'un vif succès. Plus de 90 personnes de Grosse Roche et de localités environnantes se sont inscrites à la trentaine d'activités offertes pour un total de 600 participations, annonce Vanessa Caron. Les liens de solidarité entraînés s'en sont trouvés consolidés, de même que leur sentiment d'appartenance. Jocelyne Côté, septuagénaire, souffrant d'anémie, de zona et d'une dislocation de l'épaule, ce qui l'a découragée de sortir de chez elle. Mais le projet lui a permis de briser le sentiment de solitude qui l'étreignait depuis des années. « Je restais la plupart du temps à la maison, sans voir personne ou presque. » Encouragée par sa belle-sœur, Madame Coulombe, elle s'est inscrite à la sortie de la cabane à sucre. Et elle a aimé ça. Après, j'ai tout fait. J'étais partout. Ça m'a redonné l'envie de m'activer, de sortir et d'échanger avec d'autres. Elle a même repris goût à l'artisanat et à la peinture, deux de ses passe-temps de longue date qu'elle exerçait avec moins d'enthousiasme depuis la maladie. Désormais, j'ai plus d'entrain et plus d'idées. Revigoré, le petit village continue sur son air d'aller. Grosse Roche déploie tous les efforts pour que les aînés puissent s'activer, affirme Madame Caron. À ceux qui en veulent encore plus, Pâquerette Coulombe lance avec assurance « On travaille fort là-dessus ». Et foi de celle-ci, les montagnes n'ont pas fini de bouger. Voilà, donc c'est un article qui raconte ce projet dans le cadre de l'opération MADA. Une municipalité amie des aînés, et on parlait donc de Grosse Roche, un village proche de Matane.
C'est très bien quand les petites municipalités s'impliquent, c'est extraordinaire, puis il faut donc participer, c'est très important. Souvent, ça prend une première fois, une sortie une première fois, après ça on s'intéresse. On vous revient. Alors, Roger, vous allez nous parler des femmes bioniques?
Oui, c'est ça. J'ai fait un lapsus tout à l'heure. Oui,
biologique.
Biologique, mais heureusement, le micro était à l'envers. Je pense que tout le monde n'a pas compris. Alors, c'est la chronique que signe Noémie Mercier dans l'actualité des gars, des filles. Alors, elle parle des femmes bioniques. On la surnomme Magatron. Le 10 décembre dernier, l'Américaine Maggie Gertel, G-U-T-E-R-L, a couru 160 kilomètres, presque sans interruption, sur un sentier de terre battue au Texas. Au bout de 13 heures, 47 minutes et 2 secondes. Je pense que c'est le temps qu'il faut pour se rendre en Chine en avion. Au bout de 13 heures, 47 minutes et 2 secondes, elle a franchi le fil d'arrivée la première devant des dizaines d'autres athlètes d'élite, hommes et femmes. Son plus proche concurrent a terminé presque 11 minutes derrière elle. Maggie Gertel n'est pas la première à faire mordre la poussière à des hommes dans une compétition d'endurance extrême. La même semaine, aux États-Unis, 4 autres ultra-marathons ont été remportés par des femmes, y compris une épreuve impitoyable consistant à couvrir la plus grande distance possible en 24 heures. La gagnante Courtney Doe Walter a parcouru 147 kilomètres dans le temps alloué, près de 3 kilomètres de plus que son plus proche rival. On a toujours tenu pour acquis que les hommes, avec leur masse musculaire supérieure et leur cœur plus volumineux, jouissaient d'un avantage insurmontable sur l'autre sexe dans toute épreuve physique. Mais dans les disciplines marginales qui repoussent les limites de l'endurance au-delà de ce qui semble humainement possible, cet avantage n'est plus si net. D'autres qualités que la puissance brute prennent de l'importance. Et on découvre que certaines femmes possèdent une résistance à l'effort proprement bionique. Les victoires féminines dans les ultramarathons mixtes demeurent exceptionnelles, mais il n'est pas rare de trouver des femmes parmi les 10 meilleures. En septembre, l'Américaine Sarah Case a terminé 6e au classement général de l'Ultra Trail Arikana, un parcours de 125 km tout en montée et en descente dans Charlevoix, parmi 160 coureurs des deux sexes. Pour prendre la mesure de l'exploit, songez que dans un marathon de 42 km classique, la femme la plus rapide n'atteint jamais la 20e place. Et ce n'est pas tout. En natation de longue distance, les femmes surpassent les hommes dans certaines des épreuves les plus exténuantes de la planète. Elles sont généralement plus rapides pour faire le tour de l'île de Manhattan à la nage. Je ne savais pas que ça se faisait. Un trajet de 46 km. Et elles réussissent de meilleurs temps à la traversée de Catalina en Californie, un périple de 32 km de nuit dans les eaux froides et mouvementées du Pacifique. Des scientifiques commencent à avoir une idée de ce qui peut expliquer l'extraordinaire résilience des femmes. D'abord, elles sont plus résistantes à la fatigue musculaire que les hommes. On l'a vérifié lors de tests en laboratoire comme ceux menés par Sandra Hunter, professeure de sciences de l'activité physique à l'Université Marquette au Wisconsin. Dans une de ses études, publiée en 2004, des volontaires ont contracté les muscles de leurs bras à répétition, 6 secondes à la fois, jusqu'à épuisement. Les sujets étaient de force et de conditions physiques semblables et ont fourni un effort équivalent pendant l'exercice. Pourtant, les femmes ont tenu presque 3 fois plus longtemps que les hommes,
23,5 minutes au lieu de 8,5 minutes avant de craquer. D'autres travaux ont permis de conclure que les femmes conservent plus de vigueur dans leurs muscles après avoir pédalé ou couru durant une longue période. Quand des chercheurs français ont mesuré avec précision la fatigue musculaire chez des athlètes qui venaient de terminer une course de 110 km, ils ont constaté que les hommes avaient perdu plus de force dans leurs cuisses, 38 % de leur capacité maximale, que les femmes, 29 % de leur capacité. Ces résultats ont été dévoilés en 2015 dans la revue Medicine and Science in Sports and Exercise. Les femmes possèdent un autre atout, celui-là plutôt situé entre les deux oreilles. Elles seraient plus douées pour gérer leur cadence lors d'une course. Tandis que les hommes sont portés à partir comme une flèche et à casser ensuite, les femmes parviennent davantage à maintenir une allure constante, une faculté cruciale pour les épreuves de longue durée. Par exemple, dans une étude qu'elle a co-signée en 2015, Sandra Hunter a analysé plus de 90 000 chronos enregistrés lors de 14 marathons aux États-Unis. Elle a calculé qu'en moyenne, les hommes ralentissent de 16 % dans la seconde moitié de la course par rapport à la première, et les femmes, elles, ralentissent de 12 % seulement. On n'a pas encore tout vu de ce que les athlètes féminines peuvent accomplir à mesure que la pratique sportive gagne du terrain chez les femmes. On voit fondre l'écart entre les sexes dans une panoplie de disciplines et on se rend bien compte qu'on avait grossièrement sous-estimé leurs capacités simplement parce qu'elles n'avaient pas eu l'occasion, autant que les hommes, de les développer. Alors, apparemment, on n'a pas encore tout vu de ce que les athlètes féminines peuvent accomplir. C'est Noémie Mercier qui nous le dit.
C'est vrai. Il y a de plus en plus de femmes qui font des sports, justement.
C'est ça.
Alors, on va en découvrir de plus en plus. Alors, on y va. Merci à Roger. On y va maintenant avec Serge. Dernier sujet. Ben oui, on va y aller. Pourquoi? Tu veux
que
j'y aille?
Ah, mais non, mais je pensais que vous parliez d'obésité.
Ben, on va y aller. On va y aller.
C'était tout de suite?
Ben oui, tout de suite.
Ah,
je vais en parler tout de suite dans ce cas-là.
Excusez-moi, pardon.
Oui, ben en fait, c'est un nouveau traitement, oui, effectivement, sur l'anti-obésité. C'est prometteur, en fait. J'ai retrouvé ça sur l'agence France Presse. Et c'est un nouveau traitement expérimental qui a nettement réduit le poids, le taux d'insuline et de mauvais cholestérol de souris. On a fait le test sur des souris, des rats aussi. Et de primates obèses, ben ça montre des résultats potentiellement prometteurs. Et c'est une étude qui a été tenue par Science Transnationale Médecine, qu'on dit. Et cette nouvelle thérapie pourrait offrir une alternative à la chirurgie bariatrique. Oh. Vous savez, celle qu'on coupe l'estomac, en fait, là. Pour traiter l'obésité humaine, dont le taux a presque triplé dans le monde depuis 1975, quand même.
Oui.
Et ça, c'est estimé par des chercheurs de la société de biotechnologie Amgen. Ils ont constaté que les rongeurs et les humains obèses avaient tous des concentrations sanguines élevées d'une protéine appelée GDF15. C'est à partir de cette molécule que ces scientifiques ont créé ce traitement GDF15 qui a réduit le poids, l'appétit et la glycémie chez ces animaux de laboratoire. Et ce traitement, consistant en un cocktail de protéines, a été efficace pour faire maigrir nettement des souris et des macaques obèses, et ça c'est jugé par des chercheurs. Il pointe aussi le fait que ces protéines ont altéré les préférences alimentaires des souris pour les amener à choisir des aliments moins riches en calories, quand on leur donne le choix entre différents types de nourriture. Et les auteurs de ces travaux ont déterminé que ce traitement expérimental activait un groupe de cellules nerveuses entre les intestins et le cerveau. Mais ils soulignent que davantage de recherches sont nécessaires pour identifier le récepteur cellulaire de ces protéines afin d'obtenir un potentiel thérapeutique avec des applications cliniques. Le pontage gastrique, qui consiste à réduire le volume de l'estomac, ce qu'on disait un peu plus tôt, est l'intervention la plus efficace pour traiter durablement l'obésité. Bien que cette procédure permette des pertes importantes de poids, elle est invasive et complexe. Et on sait que plusieurs personnes ratent le test, en fait. En Grèce, plusieurs mois après. Et ça laisse le patient avec des effets secondaires permanents aussi. Et ça, c'est expliqué par les chercheurs. De ce fait, il est nécessaire de développer des traitements pharmacologiques qui soient sans danger et efficaces et peuvent aussi être administrés durablement. Et ça, c'est expliqué aussi, encore une fois, par les chercheurs. Voilà pour un traitement anti-obésité. On revient justement avec Serge. Ça va être ton tour. Alors maintenant, avec les vents importants de ce matin, est-ce que, Serge, tu vas nous parler de l'hiver?
Ouais? Oui, ça sent bien. Hein?
Oui, tout à fait.
Ben oui, ça sent bien. C'est normal à chaque année, d'ailleurs.
Oui.
Ouais. On ne s'en sort pas. Hein?
Non.
Eh bien, si vous voulez vous en sortir, si vous souhaitez fuir l'hiver et passer une partie de votre retraite à l'étranger, eh bien, voici ce que vous devriez savoir avant de faire vos valises. Tous les hivers, Henri Veillant et Micheline Picard louent un appartement à Torremolinos, une ville nichée entre mer et montagne dans le sud de l'Espagne. Terrasse avec vue sur la Méditerranée, soleil et température clémente, sans oublier les savoureux petits plats servis dans les restaurants locaux et bon marché. Âgés respectivement de 68 et 70 ans, Henri et Micheline figurent parmi le nombre croissant de retraités migrateurs, les fameux snowbirds, qui résident à l'étranger pour une période variant de 1 à 6 mois par année. Ils peuvent ainsi échapper aux rigueurs de l'hiver tout en conservant leur statut de résident canadien. En pleine envolée depuis les années 2000, le nombre de voyages effectués par ces retraités augmente de 9 % par an, indique le plus récent rapport sur le marché touristique des touristes hivernants du Conference Board Canada. En 2020, les aînés canadiens devraient faire de 2 400 000 longs séjours au soleil, soit presque deux fois plus qu'en 2013. Cette croissance fulgurante est due au vieillissement de la population, car au Québec, une personne sur trois est âgée de 55 ans ou plus. L'industrie touristique différencie dorénavant deux types de retraités migrateurs. Les traditionnels snowbirds de 65 ans et plus et les snowboomers, qui regroupent les baby boomers âgés de 55 ans à 64 ans. Plus jeunes et plus aventureux, ces derniers boudent souvent les populaires plages américaines et recherchent des endroits plus exotiques où poser leurs valises. Nous voyons une tendance à la hausse pour les longs séjours dans des destinations autres que la Floride, comme en témoigne notre offre grandissante de vols pour l'Espagne et le Portugal. Pas cher le Portugal, soit dit en passant, explique Debbie Cabana, directrice du marketing des médias sociaux et des relations publiques à Transat. Ces régions ensoleillées sont prisées par les retraités parce qu'elles permettent d'aller détente et découverte. Si profiter du soleil à l'étranger quelques mois par année est beaucoup moins contraignant que de s'établir pour de bon dans un autre pays, tout retraité migrateur doit toutefois préparer ses périples saisonniers avec soin. Voici les choses essentielles à connaître pour décoller l'esprit en paix et, en complément, une liste de 5 destinations jugées idéales par des experts du voyage et de la retraite à l'étranger. Aimeriez-vous connaître les destinations idéales avant de préparer votre voyage?
Je suis prêt, je les prends en note.
Bon, d'accord. Alors, elles sont où les destinations idéales? Ça y est, je me suis... Bon, d'accord. La première destination nouvelle, OK? 5 paradis pour retraités actifs. Les retraités migrateurs ont l'embarras du choix pour se faire bronzer, escalader des montagnes et découvrir d'autres cultures. Et voici 5 destinations en vogue, suggérées par des experts de la retraite à l'étranger. La Colombie. Oh! C'est fini, la Colombie, là, avec la drogue, là. Hein? Mm-hmm. C'est fini, cela, là. Apprécié pour ses montagnes, ses jungles, ses plages, ses villes coloniales et ses plantations de café, ce pays offre un coût de vie bon marché et les soins médicaux y sont excellents. Coûte moins cher là-bas les médicaments. Vous y trouverez un certain goût d'Europe en Amérique du Sud, indique Kathleen Pedicord, qui suggère la ville de Medellin pour de longs séjours. Vous pouvez y louer un grand appartement pour $660 canadiens par mois, hein, ou habiter le luxueux quartier de feu Pablo Escobar pour $1,650 canadiens, précise International Living, un éditeur américain spécialiste de la vie et de la retraite à l'étranger. Ce pays souffre d'une mauvaise réputation, résultat de la célèbre guerre contre les cartels de la drogue qui a pris fin il y a déjà 20 ans. Hein? Alors, plusieurs régions sont encore à éviter, selon le gouvernement du Canada, en raison du taux élevé de criminalité, mais certaines régions seulement. Deux, c'est l'Équateur. Reconnu pour ses volcans, sa faune, ses montagnes et ses plages, l'Équateur est un pays tranquille et abordable où les soins de santé sont réputés pour être de bonne qualité. Le climat varie aussi selon les régions. Tropical le long de la côte du Pacifique et dans la jungle amazonienne, il devient plus frais à l'intérieur des terres, à plus haute altitude. Et les villes qui privilégient la plupart des touristes hibernants sont Cuenca, Quito, Cotacachi et Salinas. La monnaie locale est le dollar américain, ça, ce qui est un peu à être un peu moins avantageux, je trouve, pour les Canadiens en raison de la faiblesse du UR. Le gouvernement du Canada déconseille cependant de se rendre dans certaines régions jugées dangereuses. Bon. Et le Mexique. Ah, le fameux Mexique. Destination numéro 1 du palmarès 2017 d'International Living, qu'il a décrit comme un endroit alliant culture exotique, population amicale et mode de vie relaxant, le Mexique est apprécié pour ses plages touristiques, ses villes vibrantes et ses sites archéologiques. Et vous y trouverez en outre de grands hôpitaux modernes. Il est possible de vivre dans ce pays avec $1,600 canadiens par mois et moins, selon Serge Hamelin. International Living. Les villes de Mexico, Riviera Maya et Guanajuato sont populaires, ainsi que Puerto Vallarta. Néanmoins, les États du Nord et de l'Ouest sont à éviter, on va pas là, en raison du niveau de la violence liée au crime organisé. L'anglais généralement parlé dans les lieux touristiques, ainsi que le français, beaucoup à Puerto Vallarta. Le Panama, son canal, ses plages, ses rivières, ses montagnes.
Il nous fait rêver.
Et la qualité de ces infrastructures technologiques, cellulaires et Internet sont réputées. Kathleen Pedicord suggère de choisir la côte ou les vallées intérieures afin de profiter pleinement de ce pays moderne, confortable et tolérant envers les étrangers. C'est assez, vous, là?
Non.
Vous voulez que je continue?
Quelques secondes, oui.
Alors, réveillez-vous dans les Caraïbes et déjeunez sur le Pacifique. Ils sont à quelques heures d'intervalle dans certaines régions du pays. Et si vous aimez les grandes villes, Panama City est l'une des plus modernes de toute l'Amérique centrale. Le gouvernement du Canada recommande toutefois d'éviter certaines régions jugées dangereuses en raison de taux de criminalité élevés. On n'y va pas. Et finalement, le Portugal.
Oui.
Si, destination bon marché sur le territoire européen. Mmh, c'est magnifique, ça.
Merci, Serge. Vous nous avez fait rêver. Ah. Alors, merci à mes collaborateurs Franceline Neuvard. Merci beaucoup, Roger Roy et Serge Hamelin. Bon retour, en fait. Ça fut très, encore une fois, très intéressant comme émission. Alors, nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Mon nom est Claude Blas. Bonne semaine à vous.
Bonne semaine.
Bonne semaine. Au revoir.